Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Depuis la salle Le Bouillon sur le campus de l'Université Orléans en France, ici Alex Bayergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud pour la 300e édition. Bon vendredi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke, de Chiz 94.3 à Québec et grâce aux amis de Radio Campus Orléans également du 88.3, on vous présente cette 300e édition du deuxième service et ce sera dans un format complètement différent de l'habitude parce que faut se renouveler après 300 émissions du deuxième service, c'est sûr et certain. J'ai autour de moi les collègues de Chiz, Alexandre Tardif, Alexandre Leclerc et Yannick Pinard.
De CFAC, pas de Chiz.
J'ai dit Chiz, ouais, c'était évident que j'allais me tromper. Salut vous autres.
Salut les amis de Québec.
On salue les amis de Québec, évidemment. Donc on est présenté la fin de semaine, mais pour l'instant, on est en direct sur les ondes de Chiz. Non, on est en direct partout dans le fond. On est en pré-enregistrement. On va briser la magie tout de suite. Nous ne sommes pas en direct. Et bien sûr, au menu de l'émission, évidemment, on parle de l'actualité de la semaine et des dernières semaines aussi, on se permet, mais on ira dans le ton de la discussion cette semaine. Ce sera la variante qu'on pourra mettre de l'avant. On va dire ça comme ça. Ouais. Et, on va y aller tout de go. Je vais vous lancer tout de suite sur sur un premier sujet. Dans les dernières semaines, Chris Hemsworth, l'acteur qui interprète Thor, notamment dans
le... pas mort.
Non, c'est pas lui. Dans l'univers Marvel, est sorti un peu dans une entrevue en disant « Oui, nos films sont populaires, j'en ai fait plusieurs. Pourquoi cela n'a pas marché? » Parce que c'est comme ça, on peut pas dire que tout l'univers Marvel s'effondre parce qu'un film dans la gang n'est pas bon, etc., etc. De toute façon, Disney a également annoncé qu'il allait ralentir le rythme pour l'univers Marvel dans les prochains mois et années parce que justement, il y avait trop de produits.
Ah oui.
Et justement, la qualité n'était pas tout à fait tout le temps au rendez-vous. Mais ce qui retenait surtout l'attention dans cette entrevue-là, c'était que Chris dénonçait un peu ses anciens collègues qui... sans nécessairement bâcher, mais tu sais, revenait un peu en disant « Bah, c'est juste des Marvel, c'est pas du cinéma, etc. » S'alignait un peu peut-être avec le discours de certains réalisateurs qui, eux aussi, ne disaient que ça n'était pas du cinéma vu que c'était du fast-food.
C'est Martin Scorsese qui a lancé ça. Là,
C'était-tu le premier?
Je sais pas, je me souviens pas. Lui, il avait comparé ça, je pense, à une montagne russe. Là,
une montagne russe d'émotions.
Non, mais pas d'émotions. Non, littéralement, c'est comme... c'est un parc d'attractions. Vous allez faire une attraction qui est un film Marvel. Puis après ça, vous retournez chez vous. Puis votre journée est finie.
En quelque sorte.
C'est un petit gros débat.
La qualité ou la quantité, messieurs?
L'argent. Disney. Pour Disney, c'est...
Oui, pour Disney, eux, ils vont répondre l'argent. Donc, est-ce que les... En fait, est-ce que c'est un peu, sans être malhonnête, mais un peu hypocrite après ça, de ressortir de l'univers Marvel, d'avoir peut-être fait beaucoup d'argent, comme un certain Robert Downey Jr. qui a...
Il a eu son Oscar, il l'a mérité.
C'est ça, puis qui a reparti sa carrière grâce à Iron Man et qui, après ça, sort en disant « Est-ce que je ferais d'autres Iron Man? » Ben non, j'étais écœuré, puis tout ça, puis j'aime pas ça, puis j'ai jamais aimé ça, puis non.
Hypocrisie quand tu nous tiens.
Ben c'est ça, tu sais, fait est-ce que... évidemment, la question va être biaisée, mais les Marvel se peuvent dans cet univers cinématographique-là, mais est-ce que ça fait en sorte que le cinéma est dilué parce qu'il y a des films Marvel au travers? Alexandre.
Oui. Moi, je pensais... c'est vrai. Je pensais qu'après Endgame, moi, je pensais que c'était la fin.
Ça aurait été une belle fin. Là,
oui, ouais, c'est ça. Là, ils ont commencé à sortir. Puis là, j'étais... Ouais, c'est de la merde, hein? Puis là, il était comment...
Tu les avais tous suivis jusqu'à Endgame?
Ouais, quand même, quand même. Puis là, il y avait eu genre... Ragnarok, c'était après ça?
C'était un petit peu avant.
Juste avant.
C'est
juste
ça,
avant.
Mais c'est ça. Là j'étais comme... Okay. Là, j'étais comme... Pourquoi? En tout cas, c'était weird. Fait que j'étais comme... Alright. Puis là, ils sont comme... Pourquoi pas un abeille puis une fourmi? Puis j'étais comme... Ouais, peut-être pas. Puis là, il attire, mais tu sais, même... T'sais, c'est comme n'importe quoi, là. C'est les Marc Dupré du cinéma. S'il y a des gens au rendez-vous, ils vont en faire. Puis les acteurs, ils ont un beau chialer, mais s'ils veulent le gros chèque.
Oui, évidemment.
Ben, tu sais, le problème, je crois, Marvel, mais Disney en général, je pense qu'ils sont arrivés avec un concept vraiment cool de films qui se parlent entre eux, mais qui sont relativement indépendants. Je trouve que sur le plan marketing, c'est vraiment très cool. Puis je pense que ça a forcé un peu les autres... Ben, ça aurait pu forcer les autres studios à faire... Ah, OK, on va essayer d'être plus créatif dans les films qu'on va faire. Au lieu, ils ont juste copié la recette. Puis là, il y a eu le DC Extended Universe. En tout cas, il y a plein d'autres films qui essaient de faire des univers cinématographiques. On se fout, là.
Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Parce que DC a essayé de rameuter tout, mais ils l'ont fait à l'envers.
Puis là, ils vont repartir.
C'est ça, ils ont commencé par la Ligue des Justiciers et ensuite, ils ont fait les films individuels. Puis là, ils ont tout scrappé puis ils repartent de zéro.
Faut pas oublier Ralph brise l'Internet avec le Disney Universe.
Mais tu vois, c'est
avec
ça.
Avec les princesses, c'est vrai.
Ouais. Mais Disney est tellement rendu un empire de pop culture pop que ça devient dur, je crois, pour les autres joueurs de faire des blockbusters plus risqués. Puis ce qui fait qu'on tombe dans la recette un peu facile. Puis c'est ça le downside un peu de ce bon concept-là, c'est que on voit que ça fonctionne, que ça rapporte de l'argent. Fait que pourquoi est-ce qu'on voudrait pas le copier, ce concept-là? Ouais. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire des projets comme Dune. Tu sais, Dune qui est un gros risque financier. On sait que les films d'avant ont été des flops. C'est dur à adapter. Puis même ceux de Denis Villeneuve sont très bons sur le plan technique, mais ils rapportent pas tant que ça là, au box-office. Le premier est sorti en pandémie, mais t'sais, autour de 400 millions, ce qui est vraiment pas si gros. Je pense que le deuxième est autour de 600 millions. T'sais, c'est pas, t'sais, il y a des Marvel, les Marvel moyens font plus que ça là. Mais c'est ça, Marvel, c'est vraiment particulier parce que oui, ça a lancé la carrière de, justement, mettons, Chris Hemsworth. Ça a donné beaucoup d'opportunités. Peut-être un peu trop aussi, là, je pense. Là, t'sais, maintenant, c'est comme l'inverse, là. C'est les bons acteurs qui vont chercher le chèque de Disney un peu, puis font des caméos comme Bill Murray dans le récent, ou peu importe.
Oui, mais... c'est ça, on essaye d'attirer les gros noms pour faire « Hey, on a lui dans notre film un moment donné, il va parler 5 minutes et
d'attirer. » Ah ouais, c'est ça, mais tu sais, on le voit clairement que c'est pas fait pour tout le monde. Michael Douglas, il a l'air perdu devant du green screen, il sait pas qu'est-ce qu'il regarde, puis tout, tu sais.
Il est vieux.
Ben, c'est ça, il est rendu un petit peu vieux. On fait pas de l'âgisme. Mais il est quand même un peu vieux. Mais tu sais, c'est ça, c'est que... Honnêtement, je trouve que ça se vaut. Oui, c'est une recette, mais tu sais, c'est très similaire à, on va dire, c'est quasiment une belle mise en abîme des comics en général, parce que c'est un peu ça, les comics. C'est, tu sors un numéro par semaine, tu fais un reboot un moment donné quand t'es tanné de ton univers. Tu sais, il y a 3 séries de Spider-Man différentes, on le sait pas tant que ça, si on n'a pas plongé là-dedans, mais tu sais, t'as Spider-Man, t'as The Amazing Spider-Man, puis t'as un troisième, là. Puis tu sais, c'est trois séries qui se passent en parallèle, qui mettent en vedette Peter Parker, mais qui se passent pas les mêmes affaires en même temps.
Il y a eu combien de Hulk dans les 20 dernières années, combien de comédiens l'ont joué? Il y a eu autant de films que Bruce Banner a de PhD. Ça n'a pas de sens.
Il y a des super-héros qui sont plus vendeurs que d'autres, là, peut-être, mais tu sais, c'est que pour les fans de comics à la base, qui est, on s'entend, le gros public cible, je pense qu'au début, Marvel voulait essayer de rejoindre le grand public. Ça a fonctionné.
Oui.
Puis, peu à peu, le grand public a fait « OK, là, c'est un petit peu trop, là, je t'annais. » Mais les hardcore fans, qui sont ceux qui lisent les comics et tout, eux sont toujours au rendez-vous. Ce qui fait que la première fin de semaine, le film va booster son box-office. Puis après ça, il y a une chute de 80% la deuxième fin de semaine parce que mon oncle va pas aller le voir. Fait que, tu sais, je pense que c'est du bon fan service pour ceux qui trippent vraiment. Mais c'est que pour le grand public, c'est rendu aucun intérêt. Qui veut aller voir Eternals? Qui veut aller voir Shang-Chi puis les affaires aux 8 anneaux?
C'est que ça devient trop précis. Ouais.
Spider-Man, on sait c'est qui. Iron Man, on sait c'est qui. Mais là, c'est ça. Là, il y a un Blade là, qui s'en vient. Bon, on sait un peu c'est qui. Mais c'est tellement rendu niché maintenant que... C'est ça. Il y a une fatigue qui s'installe. Puis vu que c'est toujours à peu près le même film, on amène des vrais créateurs. Chloé Zhao, qui a gagné meilleure réalisatrice, qui vient faire un Marvel. Puis tu sens que c'est pas elle qui fait le film. Là. C'est elle qui dit action, puis cut. Puis c'est tout. Là. C'est Kevin Feige, ou en tout cas, je sais plus trop qui lead ça, qui fait comme, bon, mais là, ça prend ce caméo-là à 45 minutes. Là, on sent qu'il n'y a plus de créativité. Ce qu'il y avait, par exemple, dans les premiers Spider-Man de Sam Raimi, ce qu'il y avait dans les Batman de Tim Burton, qu'il y avait vraiment la signature du réalisateur. Aujourd'hui, c'est comme, John Favreau, tu es bon avec du CGI, vas-y.
vous écoutez, en fait, c'est une question uniquement d'argent. On fait de l'argent seulement.
Tant que le public va être au rendez-vous, pourquoi est-ce qu'eux, ils décideraient d'arrêter?
Ça va continuer.
Puis là, maintenant qu'il y a une plateforme de streaming, ben, il faut qu'ils sortent des séries parce qu'il faut que les gens sur leur plateforme continuent de consommer.
C'est du gavage, je veux dire, c'est du gavage pour du gavage. C'est du remplissage, puis on dilue le produit.
King Kong et Godzilla sont de plus en plus gros.
Ouais.
Elles
ont aussi.
Les voir.
C'est les stéroïdes.
Mais c'est l'exemple d'un autre Extended Universe qui existait avant les Marvel quand même. Là, mais c'est un autre exemple de comme on fait des univers avec tout, puis c'est pas toujours pertinent. On a-tu besoin d'un 8e film de King Kong puis de Godzilla?
Puis il n'y a pas aussi que les principaux concernés sont à peu près pas dans les films non plus parce qu'ils ont des combats 5 minutes, puis après ça.
Ah oui, c'est ça.
C'est des gens qui discutent tout le long.
C'est ça.
J'ai le goût de rebondir sur ce que tu as dit juste avant. Le box-office, qui contrôle beaucoup de choses dans l'univers cinématographique. Et souvent, on voit des unes qui disent « départ désastreux pour tel film, il n'a fait que 85 millions à sa première fin de semaine ». Est-ce que c'est un vrai barème, selon vous? Est-ce que réellement, le box-office devrait être foi de tout et décider du sort des films?
La situation a quand même beaucoup changé dans les dernières années, surtout avec les plateformes de streaming. Tu sais, dans le temps, ça se peut que ton film soit un flop au box-office, mais que tu réussisses à vendre des cassettes ou des DVD avec. Aujourd'hui, c'est plus le cas. C'est plus dur de faire de l'argent avec ton produit, tu sais, même 6 mois après qu'il soit sorti. Mm-hmm. Souvent aussi, maintenant, les gros studios ont leur plateforme de streaming. Fait que, tu sais, ça leur nourrit de contenu, mais en même temps, ça rapporte pas tant que ça nécessairement. Alors qu'à l'époque, mettons, tu pouvais vendre ton film à un poste de télé, tu pouvais vendre ton film à un distributeur ou faire des DVD et tout. À cette heure, Marvel, c'est différent aussi parce qu'ils font bien des produits dérivés, fait qu'ils réussissent à cacher de même. Mais tu sais, pour Dune, là, tu n'iras pas acheter un bonhomme de Paul Atreides ou de Timothée Chalamet. Ou tu n'iras pas acheter de la merch de Dune tant que ça.
T'as pas ton bubblehead, toi?
Ben non, il n'y en avait pas dans Joyeux Festin au McDo, mais tu sais, c'est ça, c'est maintenant, je pense que ça fait un peu plus foi de tout. Puis ça fait aussi, tu sais, aux États-Unis, c'est du privé, là. Mm-hmm. C'est des investisseurs qui payent pour des films. C'est pas comme au Québec où c'est un board qui décide qui a de l'argent, à qui on donne de l'argent et tout. C'est une business. Il faut que la business fasse de l'argent. Puis il y a de moins en moins de business parce qu'Amazon achète tout. Parce que Disney achète tout. T'sais, Disney, c'est Fox maintenant. Amazon, c'est MGM. Il reste Paramount aussi, qui est un peu en suspens. Il y a Warner, c'est HBO. C'est rendu des gros conglomérats qui font que tu as l'impression de ne pas regarder nécessairement le même studio ou la même signature, mais c'est toute la même personne qui est derrière tout ça. Puis c'est ça. C'est l'argent avant tout. Fait que c'est pas important. C'est important pour un film qui coûte cher, ça c'est sûr. Un film 20 millions et moins, c'est pas important. Puis, le meilleur brand, ben pas branding, mais le meilleur studio, je pense, là-dedans, c'est Blumhouse, qui font des films d'horreur à profusion. Ils en font 3 par année, un budget de 6 millions, puis ils font toujours 30 millions. Eux autres sont toujours rentables, puis ils sont morts de rire, parce que surtout, il y a un marché aussi pour les DVD de films d'horreur et tout. Mais eux autres, leurs films ne coûtent rien. Le 3/4 sont à chier, mais il y a un quart qui est quand même pas si pire. C'est puis ça. Le public est au rendez-vous, que ce soit à chier ou que ce soit bon.
Et ça donne des absurdités comme The Fall Guy de Ryan, j'allais dire Gosling, mais Ryan Gosling, qui est sorti il y a même pas 3 semaines et qui est déjà sur les plateformes de diffusion.
Ouais, c'est
parce
ça.
Qu'on l'envoie direct, on tue sa carrière au cinéma de cette manière-là.
C'est ça, c'est les cinémas, moi, je sais pas comment ils vont survivre à ça un petit peu parce que, tu sais, il est disponible en streaming, mais faut que tu le payes, là, il est 30 piastres.
Ah, faut le payer quand même? Ça, j'avais pas...
30 piastres.
Mais tu sais, pour
ce qui est plus cher qu'au cinéma, c'est ça qui est drôle. Parce
mais pour une famille, non.
Ah, une famille, oui, c'est
vrai. C'est ça, tu sais, une famille, tu veux pas trop sortir, tu loues un film à 30 piastres puis on n'en parle plus.
Non, mais ça a l'air qu'il te livre une flashlight de Black Widow.
Bon.
Ben là, j'ai plus rien à rajouter.
Mais
la merch, c'est de la merch.
La merch, c'est de la merch. Ça reste quand même dommage, c'est sûr, mais je me souviens également que pendant la pandémie, ben en fait, au retour de la pandémie, le film Mulan de Disney devait sortir en cinéma, mais justement, à cause de la pandémie, on l'a envoyé directement sur les plateformes et les cinémas.
Ouais.
On se souviendra, on n'avait pas été particulièrement heureux de la décision parce que justement, il comptait sur avoir quelques films à pouvoir mettre à l'affiche quand ça allait reprendre.
Attendez, je comprends
mais
pas.
Mais ça donne.
Ça n'a pas été
il est pas sorti.
Décalé en raison du procès Amber Heard de Johnny Depp. Johnny Depp n'était pas dans... Non,
non, non. Non, 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 il n'y a pas de film qui a
non,
été...
Non, c'est Aquaman.
Ah ouais, Aquaman.
Elle était dans Aquaman, à jouer la blonde de Jason Momoa, mais ils ont essayé de la cacher le plus possible à la sortie du 2. Il y a des grands bouts de scène qui manquent. dans la scène du phare, après qu'il ait explosé, là, tu sens qu'il y a des grands bouts de scène qui sont disparus parce qu'elle change de place à plusieurs occasions dans l'image.
Petite sirène.
Tu confonds.
Ouais, là, c'est... Mais
il y en a trop. On n'est plus capable de suivre.
Ouais, mais techniquement, c'est un genre de sirène aussi. Enfin, bref.
Fallait que tu aies écouté Jungle Book 2 pour comprendre la petite sirène.
Ah, merci.
pour mélanger bien tout le monde. On s'arrête quelques instants. Au retour, on poursuit cette discussion de l'actualité de la semaine en direct du campus de l'Université d'Orléans. Vous écoutez le deuxième la 300e du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Retour au deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ. Dans les dernières semaines, on avait appris que les créateurs de ChatGPT avaient voulu donner une voix féminine à son nouvel outil qui allait développer OpenAI, suspend l'utilisation de cette tonalité-là, parce qu'on se rapprochait beaucoup trop de la voix de Scarlett Johansson, l'actrice. Collègue de Chris Hemsworth, entre autres, dans les Avengers. Certains fans qui s'imaginaient discuter avec Scarlett Johansson seront déçus. OpenAI a annoncé lundi le 20 mai la suspension de Sky, l'une des tonalités qui a interagi vocalement avec les internautes dans le chat GPT, après que l'actrice ait accusé l'entreprise et son directeur général, Sam Altman, d'avoir sciemment copier sa voix à son insu. Et ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que justement, OpenAI avait approché Scarlett Johansson en lui demandant si elle voulait collaborer, si elle voulait qu'on cale que sa voix, d'une certaine manière, et elle avait dit non. Elle ne voulait pas être associée à ça parce que probablement qu'elle-même, de manière éthique, a trouvé ça pas particulièrement extraordinaire. Et on a quand même procédé, on a quand même décidé d'utiliser un semblant de la voix de Scarlett Johansson, qui est probablement créée avec l'intelligence artificielle, la voix de Scarlett. Et évidemment, ben, elle n'était pas particulièrement contente. Et c'est pas sans rappeler non plus au cinéma le film Her avec Joaquin Phoenix, où justement, elle était la voix de l'intelligence artificielle qui accompagnait le personnage et qui, bon, faisait en sorte qu'ils discutaient comme ça, comme si c'était une amie, etc. Donc, justement, les risques, entre guillemets, de personnifier l'intelligence artificielle plutôt que la voix robotique d'Alexa ou de Siri, par exemple. Je vous demanderai pas si OpenAI a bien fait d'utiliser la voix de Scarlett, non, mais comment vous pensez que, justement, cette espèce de négligence-là qu'a OpenAI de faire comme « Ben non, c'est juste une voix, c'est pas grave, le monde va comprendre. » Est-ce que réellement les gens vont comprendre, selon vous?
Je veux juste rebondir sur ta question. Est-ce que c'est vraiment de la négligence?
Non, c'était complètement voulu d'avoir choisi. Et c'était surtout dans les démonstrations qu'on faisait. C'était, on lui posait des questions comme, par exemple, « Est-ce que je suis bien habillé en ce moment? » On prenait, donc ça scannait la photo et la voix répondait comme « Ah, franchement, t'es correct demain. » C'était très personnalisé et en plus, avec une voix un peu comme Scarlett qui est très gentil, qui est très... qui, ben justement, dans les compliments en plus. Donc là, la ligne devenait mince pas mal.
C'est du film, comme tu as dit.
Exactement. Ben, c'était justement... Ah ouais. Sam Altman avait justement tweeté, je pense c'était la journée de la démonstration, il avait juste tweeté « Her ». Juste pour rajouter en plus à tout ce débat-là. Donc,
Il vous laisse faire poursuivre.
C'est quasiment ça.
Mais y a-t-il une musique de Arcade Fire accompagnée?
J'aimerais ça. Ouais. Moi, ça m'amène surtout la question de... Là, c'est quelqu'un qui était vivant et tout, là, mais à un moment donné, on va faire ça avec les personnes qui sont mortes. Là. Ça a déjà été un peu soulevé, surtout au cinéma, de comme... faire acter, ou tu sais, même on l'a fait, je pense, avec Philip Seymour Hoffman dans le dernier Hunger Games, il était mort avant la fin, fait qu'on l'a CGI.
Star Wars l'avait fait aussi avec Carrie Fisher.
Tu sais, là, je pense que tout le monde était consentant, mais dans un moment, il n'y aura pas personne qui va devoir consentir à tout ça. Mais tu sais, ça amène surtout ces réflexions-là. Moi, je suis pas contre la personnification nécessairement de tout ça. J'aimerais ça, mettons, que jaser à Samuel L. Jackson, là, tu sais, qui m'insulte quand je demande des affaires ou peu importe. Tu sais, je trouve ça quand même comique, mais tu sais, c'est ça. Ça devient weird un petit peu, là, les intelligences artificielles. Puis heureusement, entre guillemets, je suis éduqué, puis je sais les limites et le potentiel aussi de l'intelligence artificielle. Tout ce que ça va te dire, c'est pas des choses... Ça invente rien, l'intelligence artificielle. Ça reprend quelque chose qui a déjà été fait ailleurs, puis ça te le remet. Fait que, tu sais, ça, je le sais, mais le commun des mortels, je crois qu'il ne le sait pas. Puis c'est là que ça peut devenir un peu dangereux dans nos interactions humaines. Peut-être à un moment donné, est-ce que ça va faire que, comme dans Her, on va se mettre à jaser à nos ordis au lieu de se jaser entre nous à travers des ordis? Je sais pas. Ça...
Moi, c'est sûr. Là, mettons, ma blonde me laisse. Là, après 2 mois de solitude, là, je tombe en amour là, avec la AI de Scarlett Johansson, là, c'est sûr.
Ouais. Pornhub AI.
Ouais, c'est ça. VR. Là.
Quand j'ai entendu la démo publiée, j'ai été choqué, en colère et incrédule que M. Altman ait mis au point une voix qui ressemblait si étrangement à la mienne que même mes amis les plus proches et les médias ne pouvaient pas faire la différence. Altman a même insinué que la similitude était intentionnelle en tweetant le mot « her », donc elle faisait aussi référence... au tweet qui est toujours en ligne, semble-t-il, qui datait du 13 mai, lorsque justement la démonstration avait été faite. L'actrice explique avoir été obligée d'engager un conseiller juridique pour écrire des lettres, notamment à OpenAI.
On s'entend qu'elle va être bien payée. Elle va être bien compensée, mais là, son nom est comme un peu à jamais attaché à ça. Là.
Malheureusement pour elle, effectivement.
Moi, j'aimerais rajouter de quoi. Si on avait un robot conversationnel au Québec... qui était fait par la voix de Caroline Davernas ou Michel Delorier.
Ouais, c'est ça.
Ça serait pas un peu bizarre, là?
Ouais. Il a pris ces deux personnes-là parce que c'est la voix du métro.
Les voix du métro et du REM.
Ouais, et du REM.
Qu'est-ce que je mange ce midi? Station Berry-UQAM. Non, mais... c'est je sais pas. Ben on peut pas se forcer plus. On peut pas prendre les gens pour rien de moins que des idiots. Pourquoi on fait ça, je veux dire? En même temps, pourquoi pas? Mais... on tourne pas en rond un peu. Est-ce que c'est pas un peu idiot? Pourtant, justement, c'est ça la force, c'est de dire hey, l'intelligence artificielle, regarde comment ça va loin, mais en même temps, regarde comment on semble limité. Je sais pas, moi, ça me titille un peu et ben ça me donne absolument pas le goût d'utiliser ChatGPT.
Non, parce que là, dans ce cas-ci, en plus, ben justement, vu que l'intelligence artificielle a cette capacité-là de créer, de pouvoir dire à peu près ce qu'elle veut. Aux voix personnalisées. Tu sais, il y a une autre époque, par exemple, dans les voix de GPS, par exemple, on pouvait télécharger des Dwayne Johnson, puis des choses comme ça qui donnent les directions, mais dans ce cas-ci, bon, dans leur cas, ils ont donné leur autorisation, évidemment, puis ils ont enregistré eux-mêmes les tourne à gauche, tourne à droite.
Ouais. Recalcul en cours. J'aimerais ça que Marc Labrèche me dise ça.
Ouais,
ben, c'est ça. Crusty. Crusty. À une époque où nous sommes tous aux prises avec les deepfakes et la protection de notre propre image, de notre propre travail, de notre propre identité, je pense que ces questions méritent une clarté absolue, disait-elle en déclarant attendre avec impatience que soit adoptée une légalisation appropriée pour contribuer à garantir la protection des droits individuels. Dans le même genre étaient apparues également les photos de Taylor Swift pendant le Super Bowl, qui, bon, la mettait dans des positions subjectives avec l'uniforme des Chiefs pour niaiser les partisans et tout ça, au point même que Twitter a été obligé de bloquer Taylor Swift sur Twitter. Donc, là, on écrivait son nom et aucun résultat de recherche n'apparaissait pendant 48 heures, le temps de faire le ménage de toutes ces recherches-là.
Shake it off un peu.
Est-ce que ça va trop vite? Est-ce que on... en fait, la grosse question, c'est comment on peut légiférer là-dedans?
C'est parce que le problème, je crois, c'est que... Tu sais, c'est comme dans tout, là. Tu sais...
T'as les limites.
Ouais, non, mais t'as l'impression, tu sais, tantôt, j'étais au McDo.
Ah oui?
Je vais faire un parallèle un peu pointu. Tantôt, j'étais au McDo. Et puis, j'ai fait une commande à la borne. Et puis, ça a pris... Après 20 minutes, j'ai signalé le fait que tout le monde dans le restaurant avait reçu leur commande, sauf moi. Puis là, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas reçu... que ça s'était pas parlé entre l'ordinateur et tout. Puis il a fallu qu'ils refassent. Ils m'ont donné une petite frite, heureusement, en compensation. Oh. Mais bref, mon point est que, comme dans tout, L'erreur est humaine, ou en tout cas, on croit que les gens sont compétents jusqu'à temps qu'ils nous montrent qu'ils ne sont pas. Puis c'est la même affaire avec Facebook ou avec les réseaux sociaux, dans le sens, c'est des gens, là, c'est des masterminds qui ont créé une infrastructure comme ça, qui utilisée à bon escient, est fantastique. Mais qui, tu sais, c'est ça, ils peuvent pas empêcher, mettons, il se passe quelque chose dans un stade américain, là. Il y a 100 000 personnes qui, pendant l'hymne national, sont en train de filmer, puis là, il se passe de quoi... quelqu'un qui se mange une balle en tête, peu importe. Tout le monde voit ça, puis le poste tout de suite sur les... on voit un mamelon. Ouais, c'est ça, tu sais, pendant le Super Bowl.
Ouais.
Tu sais, il se passe quelque chose. S'il y a 100 000 personnes qui le postent tout de suite, il y a personne qui est capable de contrôler ça. Même un AI, tu sais, un AI, ça réfléchit pas, là. Ça agit selon les paramètres que tu lui donnes. Fait que, c'est ça. Je crois que les gens qui ont créé des infrastructures plus grandes qu'eux autres, que ce soit ChatGPT, que ce soit Facebook, X ou peu importe, mais qu'ils ne sont pas capables de bien les contrôler. Puis le problème aussi, c'est qu'on n'est pas capable de bien les encadrer parce qu'on ne comprend pas comment ils fonctionnent nécessairement. C'est vrai. Puis c'est toutes des entreprises privées. Je ne dis pas qu'il faut nationaliser Facebook nécessairement, mais à partir du moment où c'est un groupe de personnes qui savent comment marchent les algorithmes, algorithmes qui changent tout le temps selon ce qu'ils veulent bien faire, ben c'est ça. C'est comme dans tout. On a l'impression qu'ils sont compétents jusqu'à temps qu'ils nous montrent qu'ils sont pas compétents. Puis ça peut avoir des graves conséquences dans le cas de, mettons, des deepfakes, des trucs comme ça. Là, tu sais, ça a pris quoi, 6 mois avant que Facebook fasse comme « OK, c'est bon, là, on va faire un ménage. » Ou, tu sais, pendant les élections américaines aussi, la Russie et tout ça, est-ce qu'ils sont influencés? Tu sais, ça prend un red flag de quelqu'un à un moment donné, puis ça prend des gens qui savent comment réparer cette guerre gaffe-là. Puis, tu sais, c'est des longs délais, mais il y a bien du dommage qui peut se faire d'ici là. Fait que, c'est ça, on crée des infrastructures plus grosses que les notes, plus grosses qu'on devrait, puis on ne sait pas comment les gérer, puis ça amène
des débordements. C'est vrai que, s'il y a de quoi criminel qui se passe, il n'y a aucune ressource à SQ là, qui peut...
Non, puis ça fait, en sorte qu'il y a toujours une dernière trace qui va toujours subsister
mais
sur
ces
réseaux-là.
Il y a eu bien des leaks de nudes de, je sais pas, mais Jennifer Lawrence, peu importe, puis tu sais, t'as beau essayer, tu sais, c'est con, mais Mike Ward sous-écoute, là, t'as ta casquette de sous-écoute, l'épisode de la poche bleue qui a été retiré.
Ah oui, il était en ligne la journée
tous les segments crunchy sont encore là. Tu peux pas rien enlever nulle part.
D'ailleurs, Yannick, il n'est pas retourné cette semaine.
Il est retourné à la poche bleue.
Je pense qu'il est allé faire goûter sa vodka au gars de la poche bleue.
Mais je vais rebondir là-dessus. Les failles, justement, tes exposés, là, les limites sont hautes, mais dans le signalement que Facebook nous demande de faire sur les nombreux comptes frauduleux, là, les gens qui « Bonjour, comment allez-vous? Puis-je vous parler? » On fait des signalements, puis Facebook nous renvoie un message 2 heures après.
Il n'y a rien de louche.
Tout est correct. Oui. Mais elle est où la limite? Je veux dire, la personne peut bien se prendre en photo, faire n'importe quoi.
C'est parce qu'il y a trop de contenu, puis il n'y a pas assez d'humains pour les checker. Fait que tu passes par des ordis, puis les ordis, c'est pas des bons films.
On la voit, la limite, elle est là. C'est que c'est facile de passer par-dessus le robot. Puis même avec l'exemple que tu donnais, tu sais, je me rappelle il y a quelques années, un Américain il avait fait une fusillade en Facebook Live.
Oui, c'est vrai.
Je veux dire, ça a pris combien de temps avant que quelqu'un allume, fasse « Oh, il se passe ça, justement, personne allumé. C'est trop long. » La liberté, elle est très grande sur Facebook, mais les failles, elles sont aussi immenses.
Je clôturerai la discussion avec ça. Est-ce que ça marche encore, le « je ne suis pas un robot » ouais, est-ce que le robot est toujours incapable de contourner ce
Je suis Marc Dupré.
Ouais, c'est à se le demander. Puis de toute façon, nous, notre Facebook, maintenant qu'on n'a aucune actualité, c'est juste des photos.
Et là, on en a, parce qu'on est en France.
Oui, parce qu'on est en France.
J'ai vu des posts de médias, je suis comme « Ah, on a-tu été débloqué? » Là, je vais sur la page de CFAQ. « Ah, on est disponible? »
C'est ça. Notre contenu est là, mais la dernière publication date de 2023 parce qu'on n'a plus accès à nos pages. Et de toute façon, le nouveau Facebook, parce qu'on les a plus, ces contenus-là, c'est toutes des images générées artificiellement avec des gens qui disent un like, une prière. Fait que c'est pas non plus valorisant ce Facebook-là.
Bonne journée.
Bonne journée. Un like, une bonne journée. On s'arrête quelques instants, courte pause, au retour. La suite de cette 300e du deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIZ.
Les chevaux sont dans l'arène. C'est une parade sans détour où mes lèvres se fracassent sur les tiennes. C'est un bal où tout le monde danse, danse la danse des connards. Tous nos vices au rendez-vous, ta lumière, nos rides et le soir. Mais enfin toi, tu vois quand c'est beau, que c'est beau. Le droit d'être beau. Mais enfin toi, tu vois quand c'est beau, que c'est beau, que tu me donnes le droit d'être beau. Je mettrai mes plus beaux habits avant de sauter à l'eau. Je regarderai à tort les reflets de toi, le soleil dans l'eau, se noyer comme il faut. Immiscé entre nous, le théâtre sacré d'une histoire que l'on brûlera devant vous. On se croirait au paradis, mais faites entrer les garde-fous. Parents, famille et puis amis, séparez-nous de nous. Mais enfin toi, tu vois quand c'est beau, que c'est beau, que tu me donnes le droit. Yeah. dans l'eau, je mettrai mes plus beaux habits. Avant de sauter à l'eau, je regarderai à tort les reflets de toi, le soleil dans l'eau, se noyer comme il faut.
De retour à la 300e du deuxième service sur les ondes de Chiz 94.3 de CFAQ, 88.3 à Sherbrooke. Alexandre, je t'ai demandé de me faire peut-être un petit résumé ou du moins de me parler du Festival de Cannes qui vient de se terminer. On a mis tous nos œufs sur Coppola, mais c'est peut-être pas au rendez-vous, notamment.
Mais non, c'est ça. Ben, ça va être une émission un peu plus cinéma
qu'à l'habitude. Ah, c'est correct. Il y a toujours des éditions.
Mais on est en France, puis grand fan de cinéma que je suis. Ben, je peux pas passer sous silence. La Palme d'Or est remise à Sean Baker pour le film Anora. Sean Baker, qui est un réalisateur américain underground aussi, là, qui a fait des cult classiques, si je veux dire, des films très appréciés par les cinéphiles, mais qui sont passés vraiment sous le radar là, dans les dernières années. Bon, c'est lui qui a fait Red Rocket il n'y a pas si longtemps, un film sur la pornographie. Il a fait Tangerine, il a fait The Florida Project. Et puis là, ben, son nouveau projet, ben, c'est mérité la Palme d'Or. Je dirais pas sous la surprise. Plusieurs voyaient le film... attendez un petit peu que je retrouve son nom. The Seed of the Sacred Fig, pardon, de Mohamed Rasoulov. Ils voyaient remporter la Palme d'Or. Finalement, a gagné le prix spécial, qui est comme une très bonne distinction quand même.
Ils voyaient gagner lui... Parce qu'il était bon ou le PR?
Parce que, ben pas le PR, parce que ça reste du cinéma iranien, puis il n'y a pas beaucoup, beaucoup de pubs faites sur ce cinéma-là d'habitude. Non, mais c'est vraiment parce que Rasoulov est quand même bien réputé. Les cinéastes iraniens sont très, très bons parce qu'ils doivent créer sous, quasiment en secret, là, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire de films là-bas, ou en tout cas, le gouvernement impose vraiment là, des codes très strict sur le cinéma, puis tout le monde qui fait du cinéma iranien, ben il doit le faire en catimini, puis envoyer des fichiers à quelqu'un en Europe qui va faire le montage à distance. C'est vraiment bien, bien compliqué.
On va-tu pouvoir montrer des hélicoptères dans le cinéma iranien bientôt?
Je sais pas. Tu sais, c'est ça. Fait que, mais ce qui a fait beaucoup jaser cette année au Festival de Cannes, c'était Megalopolis, le projet ambitieux de Francis Ford Coppola, qu'on connaît pour The Godfather, qu'on connaît pour Apocalypse Now et tout, qui avait investi 120 millions de sa petite monnaie pour réaliser ce film-là, qui d'ailleurs n'a toujours pas de distributeur. Hein. Oh.
Ça veut tout dire.
Il y a eu beaucoup de red flags aussi.
Il n'a pas été hué à Cannes?
Non, il a été... Ben, tous les films sont à peu près salués là, à Cannes. Là, des ovations de 7 minutes, là, ça ne veut pas rien dire. Là.
C'est la durée des applaudissements des fois.
Oui, c'est ça. Pour avoir été dans une salle puis avoir vu un mauvais film... puis avoir assisté à une ovation de 7 minutes, je sais que ça veut rien dire. Mais c'est ça. Donc, c'est beaucoup lui qui a fait parler parce que, c'est ça, il a présenté évidemment son projet ambitieux. Les critiques l'ont pas particulièrement... En fait, c'est très polarisant comme film. Il y en a qui ont vraiment adoré, puis il y en a qui ont détesté. Ouais. J'ai quand même hâte de le voir. Là. Je pense qu'il y a une sortie française prévue comme en septembre. Mais pour l'instant, en Amérique, il n'y a pas grand-chose de prévu. Okay. Mais c'est ça, une espèce de projet un peu bizarre. Puis là, j'ai cru comprendre qu'il y avait comme même une partie interactive. Il y a comme quelqu'un qui est monté sur le stage pour parler au film, puis le film y répondait. Je sais pas comment ça va se rendre au final.
Ça, c'est de l'art.
Ouais, c'est ça. Mais c'est ça un peu le message de ce film-là. Puis j'ai aimé la conférence de presse de Francis Ford Coppola qui expliquait un peu pourquoi il a fait ce film-là. Ça fait 40 ans qu'il veut le faire. Il n'y a jamais personne qui voulait le financer parce que il n'y a pas personne qui va aller voir ça. Puis honnêtement, quand il va sortir, je pense que les cinéphiles aguerris vont aller le voir. Mais personne ne va aimer ça ou à peu près. Puis même moi, je sais que j'aimerais pas ça parce que le monde parle en shakespearien. C'est comme une espèce... C'est New York, mais pas tant. C'est comme un parallèle avec la chute de l'Empire romain puis la chute de l'Amérique moderne, un peu. Ce n'est pas sans rappeler le cinéma de Denis Arcand des dernières années. Ben oui, mais bon, c'est ça. Puis il voulait, en fait... Tu sais, on parlait de Marvel, justement, plus tôt. Lui, son but, c'est que... On est tellement rendu habitué à consommer du cinéma que dès qu'on voit un film qui ne correspond pas au code qu'on connaît, c'est-à-dire après 20 minutes, ton élément déclencheur, après ça, tu as 2-3 péripéties. T'sais, on est tellement habitué à ces codes-là que dès qu'on voit un film qui n'y répond pas, on n'aime pas ça, on est déstabilisé. Puis c'est ça qu'il a essayé de mettre de l'avant parce que son film est complètement éclaté. Bon, ça se peut que ce soit de la merde pareil, là. Puis je m'attends quand même à ce que ce soit pas si bon que ça. Mais c'est ça, puis lui, il est comme... j'espère que ce film-là, je m'en fous qu'il marche pas, ce film-là. Puis il a même dit, 120 millions, là, dans le sens, je m'en fous, je meurs dans 5 ans. Là. T'sais, j'en ai pas besoin, mais mes enfants ont tout l'argent qu'ils ont besoin. Je m'en fous, même si je finis broke, on s'en fout.
Mais frère, il faut respecter ça.
Ben, c'est ça. Moi, je respecte beaucoup. Puis tu sais, c'est le même problème. Tu sais, il a fait Le Parrain, qui, lui, mm-hmm. a été universellement reconnu. Il a fait Apocalypse Now, que lui, ça a pris du temps avant que les gens fassent comme, OK, c'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma, mais... C'est ça qui est arrivé. Même chose pour son Dracula des années 90. Il est sorti, personne n'a aimé ça, puis finalement, on s'est mis à aimer ça. Puis lui, il a dit, j'espère que dans 10-15 ans, vous allez voir que ce film-là était un peu avant-gardiste, parce que c'est ça que j'essaie de faire. Tu sais, le bonhomme a 86 ans. Là.
Ouais.
Puis j'ai hâte de le voir, honnêtement. Une belle distribution. Mais c'est ça, il y a beaucoup de red flags, je crois, dans ce projet-là qui font que... Il y a personne qui va aller voir ça, que c'est très dur à marketiser, à part le hype qu'on a créé de comme, hey, ça a l'air que c'est pas tant bon, on va-tu le voir?
Mais... C'est un André Forcier?
Non, c'est vraiment... ben, il comparait à Citizen Kane un petit peu, okay. Là, dans son ampleur. C'est, en fond, c'est The Rise and Fall d'un architecte à New York qui essaie de penser le futur, mais qui se fait empêché de réaliser ses projets par la société conformiste. Essentiellement, okay. C'est un peu ça. Qui essaie de... Hey, on va créer des espaces pour que l'humanité vive mieux. Puis tout le monde fait comme... Mais non, c'est pas rentable. Ou non, c'est ça.
Belle mise en abîme, finalement.
C'est ça. C'est peut-être un peu trop on the nose, j'ai l'impression, pour... on va sûrement tout rouler des yeux parce que c'est comme testament, un petit peu.
Ouais, c'est ça, je suis rendu, ça va être soit...
Très moralisateur, puis très... C'est ça que j'ai peur. En même temps, c'est ça. J'ai hâte de le voir quand même pour constater à quel point... se l'est ou pas. Mais c'est le film qui a fait le plus jaser vraiment à Cannes cette année. Puis je vous invite à aller le voir, que peu importe quand il va sortir.
Mais en même temps, c'est ça comme tu le dis, sans distributeur, malgré le nom qui est porté dans ce film-là. Puis c'est pas des petits acteurs non plus qui sont là-dedans. Il y a des Adam Driver, il y a des acteurs en vogue en ce moment. Puis ça intéresse personne, seul, ça veut tout dire aussi. Là.
C'est ça, puis c'est... en tout cas, je pense pas que ça va s'en aller en streaming parce que, comme tous les vieux de la vieille, ils ont comme...
Non, lui, il veut aller au cinéma, ça, c'est sûr.
C'est ça. Il y a juste Scorsese qui est quand même un peu ouvert au streaming, là, mais tu sais, il a fait Irishman avec Netflix, il a fait Killers avec Apple TV, mais bref, c'est ça, tu sais, ils ont tous un petit dégoût de tout ça. on verra ce que ça va donner, mais je pense qu'il va juste mettre plus d'argent puis le distribuer lui-même. Là. Je pense que c'est ça qui va arriver probablement, ce qui est un gros risque financier, mais il a l'air de s'en foutre. Mais,
c'est peut-être son dernier rendu là.
Ben, c'est ça. Ben, il a en dit plus, qu'il avait déjà commencé à préparer son prochain.
Ah, oui.
Mais ça faisait quasiment 10 ans qu'il n'avait pas fait. Là, fait qu'on verra. Il va peut-être, sa femme, d'ailleurs, est morte il y a comme 3 semaines ou un mois, là, juste avant le festival de Cannes.
Juste avant, oui.
Ouais,
elle a vu le film, puis c'est fini.
ça se peut. Mais c'est ça. Mais tu sais, sinon, des films notables, j'en mentionne, parce qu'on est en France, là, le film Emilia Pérez de Jacques Audiard qui a gagné le prix du jury puis les prix d'interprétation aussi des actrices là, donc c'est ça, puis un nouveau film de Yorgos Lanthimos qui a fait Poor Things, lui aussi il est comme dans une grosse passe créatrice, il a fait Poor Things, Kinds of Kindness qui est sorti comme 4 mois après, puis qui a gagné, c'est Jesse Plemons qui a gagné meilleur acteur, puis il est déjà en train de tourner son prochain avec encore Emma Stone et Jesse Plemons, il va sortir 3 films cette année, c'est le nouveau Quentin Dupieux faut croire, mais c'est ça, fait que il va avoir ça à garder en tête pour leur sortie. Les films de Cannes, d'habitude, ils sortent comme dans la prochaine année. Fait que ça se peut qu'on y en ait jusqu'en mars. Là, fait que ça va être long. Mais très beau festival. Pas trop de polémiques nécessairement. George Lucas qui a eu sa palme d'or d'honneur remis par Coppola, justement, les grands amis. Donc, c'est ça. Une belle petite fleur, mais au final, un film peut-être... très, très aimé du public, mais qui ne sera pas aussi rassembleur que Parasite, qui a gagné la Palme d'Or. Donc, je le rappelle, Anora de Sean Baker.
Merci, Alexandre.
Yes.
On enchaîne avec une dernière pause. Au retour, la conclusion de ce deuxième service en cette première fin de semaine de juin sur les ondes de Chiz et sur les ondes de CFAQ.
Accordé plutôt raide. Et la gravité affamée, il n'y a aucun filet. En dessous de tes pas, tu as tout ton poids. La vie a tout son temps et la n'était pas comme un balai sur un tambour, les yeux vers le bas. Tu hallucines subitement, tu l'évites là-haut, au-dessus des moyens de tes affaires. Tu sais si bien le faire, tu sais si bien le faire.
De retour à la conclusion de ce deuxième service sur les ondes de CHI, sur les ondes de CEFAC, suivi de dossier et conclusion par le fait même de dossier. Du côté de Québec, trois théâtres de la ville avaient été mis à l'amende entre 2017 et 2019 pour avoir eu des pièces de théâtre où des personnages ont fumé sur la scène, sacrilège. Des spectateurs avaient assisté aux pièces et avaient fait des plaintes à la santé publique parce que, justement, il y avait du tabac qui était consommé ou de fausses cigarettes. Mais, règle générale, c'est des fausses cigarettes. Là, évidemment, on ne se clenche pas des vraies cigarettes sur scène. Des constats de 500 $ avaient été remis à la pour contravention à la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Les amendes ont été contestées et, en 2021, le juge de première instance les avait déboutées. Ce dernier estimait que fumer sur scène ne constituait pas un geste expressif et ne véhiculait aucun message. Il invitait alors les créatrices et créateurs à utiliser des objets factices ou à faire semblant. Donc, prenez des petits bouts de papier roulés et
fume ton stylo.
Et fumez. Faites ouais. semblant de fumer.
Et il aurait pu utiliser la Red Jordan rendue là pour montrer qu'on...
Ouais, ouais, maintenant qu'on est rendu, maintenant qu'on est rendu en 2024, quasiment, y voyant un grave précédent, les théâtres appuyés par le milieu culturel ont porté leur cause en appel. Les démarches des théâtres visaient principalement à soustraire le contenu artistique présenté sur scène des dispositions de la loi concernant la lutte au tabagisme. Et c'est le jugement qui a été rendu par le juge Aymon qui a invalidé l'interdiction de fumer dans les lieux culturels ou artistiques imbriqués dans la loi concernant la lutte contre le tabagisme. Le ministère de la Santé ne pourra donc plus l'invoquer pour donner des constats d'infraction. Donc, si ça sert la pièce, justement, si ça fait partie de la mise en scène, c'est justifié. Donc, ce n'est pas un acte de juste fumer pour fumer. Est-ce que les gens se plaignent de tout et de rien?
Mais c'est-tu des vraies cigarettes?
C'est des cigarettes de télévision, de théâtre. C'est okay, comme c'est juste.
C'est des vraies cigarettes. Ben, dans le sens, c'est pas comme une cigarette plastique là qui. C'est vraiment quelque chose qui.
Ça brûle pour vrai. C'est comme de l'herbe. Fait que ça brûle pour. C'est ça. C'est pas du tabac. Okay. C'est comme une genre d'herbe. Ça goûte le yarbe, mais ça fume comme si t'avais la tête. Puis quand justement tu veux prendre une puff, ben là,
ça va
allumer.
Ça n'a pas d'impact sur le public.
Non, c'est ça.
À part, mais tu sais, il y a même à cette heure, je pense, des plateformes de streaming qui a des pas des trigger warnings là, mais tu sais, t'as plus le droit de montrer des gens qui fument maintenant au cinéma. En tout cas, t'as des règles.
T'as quand même l'avertissement de peu que ce film peut contenir du tabagisme.
Parce que ça peut inciter à fumer.
Non, là, moi,
on parle pas de fumée secondaire, c'est vraiment de l'incitation.
Il y a des vidéos là, accessibles à tous, de musique, de Nicki Minaj, OK? Cardi B.
Ouais.
Puis on n'a pas le droit de fumer des fausses cigarettes.
Merci, Alex, de remédier
à
ça.
C'est du cinéma. C'est du
ben non, mais rendu là, est-ce qu'on devrait interdire la chanson « Fume, fume » de Caillouche? Ah, oh, ça porte atteinte à ma morale, puis c'est
paix à son
mal.
Âme,
Caillouche.
Oui, ça, qui est décédé la semaine dernière. Au personnage.
Ouais. Mais il y en a un qui va être content de ça, c'est Nathan Fielder. Je ne sais pas si vous le connaissez. Lui, là, c'est, il fait de la télé, il fait des shows un peu métal. Mais lui, il avait son show qui s'appelait Nathan For You. Puis le but, c'était d'aider, il aidait des commerçants à réaliser du profit. Ou en tout cas, il aidait des gens à atteindre leur but. Puis ce qu'il avait fait pour un bar, qui n'avait plus le droit de mettre des gens pour, à fumer, il a vu justement ce loophole-là de ben, si vous êtes une scène de spectacle, vous pouvez fumer. Fait qu'il avait installé deux chaînes puis un rideau. Puis là, dans le fond, il vendait deux billets par soir à des gens qui allaient s'asseoir puis qui le rideau ouvrait puis c'était juste un bar qui était là. Puis il regardait le bar puis tout le monde pouvait fumer dans le bar parce qu'il était, en théorie, sur une scène.
C'est créatif.
Fait que, ouais. Fait que lui, il va être content parce que son loophole, il était légal.
Lui, ça va être correct au Québec. Ouais. Pour répondre aussi à ta question, Alexandre, le jugement vient à conscrire ce qu'est un produit de tabac dans le milieu culturel. Donc, justement, dans son application précédente, était assimilé à du tabac tout produit qui ne contient pas de tabac non plus. Donc, vraiment, c'était tout ce qui se fume, peu importe le format. C'était de la sauge.
Plus le droit de fumer de l'encens.
C'était de la sauge. Hey. C'est ça. À ce moment-là, c'est que ça l'englobait aussi, l'encens. Donc, c'était vraiment...
Les églises seront pas contentes.
Aucune fumée sur une scène pour ne pas incommoder, nanana. Mais là, dans ce cas-ci, comme c'était de la sauge, c'était vraiment pas du produit de tabac. Donc, ça n'avait pas lieu d'être. L'article du règlement qui encadre l'application est invalidé dans ce cas-ci.
Ah, ben pour citer Julien Bernatché, un vote, une clope.
Ouais. Hey, ça, il s'était fait... il avait mangé une amende,
ben oui.
Je pense.
Oui, parce que techniquement, on a...
T'as pas le droit
voilà, il s'est présenté à une élection générale et il avait dit à la blague un vote, une clope, mais c'est techniquement rétribution, ce qui n'est pas permis par la loi électorale. Donc, probablement qu'il a dû avoir une étiquette lui aussi.
Oui, mais il a poussé la blague jusque-là puis il a réussi finalement.
Il a quand même
l'ironie de tout ça.
C'est ça, il n'est quand même pas terminé à la dernière position dans le comté de Laurier-Sainte-Marie, mais je pense qu'il se présentait contre Gilles Duceppe. Fait que de toute façon, il n'y avait pas...
C'était tough.
Il n'y avait pas beaucoup de chance de son côté pour pouvoir l'emporter.
Ça aurait pris plus que des clopes.
Rendu là, oui, mais...
Ça aurait pris Anne Cazabonne dans ce cas-là.
Troisième avant-dernier, c'était quand même pas si mal.
Non, c'est ça.
C'est là-dessus que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Je remercie cette semaine les invités spéciaux autour de cette table. Alexandre Tardif, Alexandre Leclerc et... Yannick Pinard, merci.
Merci à toi. Merci de faire ton show depuis 300 épisodes. Ben, plus que
et
ça.
Et plus.
Là, mais ouais, c'est ça.
À quelques milliers de kilomètres d'ici.
Ben oui, c'est
ça, dans cette édition spéciale enregistrée depuis Radio Campus Orléans au 88.3 en Europe.
Point 30.
Point 30 pour leurs 30 ans, c'est vrai. C'est dans ce cadre-là qu'on vient leur rendre visite cette semaine et la semaine prochaine. On se donne rendez-vous, nous, la semaine prochaine pour une autre édition du deuxième service. Peut-être. Enregistré depuis la France, toujours pour la 301e édition du deuxième service. À la semaine prochaine. Salut.